Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Première partie de notre shiur ce soir, je voudrais la consacrer au Tehilim. Vous dire en 5 points ce qu'il y a d'essentiel à savoir sur les Tehilim. La première des choses, c'est que les Tehilim sont appelés dans la tradition le mazon de la Neshama, littéralement la nourriture de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on ne comprend pas que le texte ne nous est pas intelligible, il y a une démarche qui s'opère. Notre âme jouit, profite de la lecture des Tehillim. Quelqu'un qui semblerait comme ça nonner des versets sans rien comprendre, on peut dire à quoi ça sert. Il n'est même pas conscient qu'il récite une prière. Non. La neshama de l'homme, elle perçoit le sens des Tehillim et elle en est confortée. Premier enseignement. Deuxième enseignement, en fait, qui l'un explique l'autre, le texte de Tehilim a été écrit avec le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire avec l'inspiration divine. Mon sage explique que dans les textes de Tehilim, on peut trouver une infinité de fois tous les noms de HaKadosh Baruch Hu. Vous noterez également, dans ce même domaine, que les Tehilim sont un livre qui commence avec la lettre Aleph. Le premier mot des Tehilim, c'est Ashré, donc Aleph. Alors que la Torah elle-même n'a commencé que par la lettre Bet, qui semblerait supposer que les Tehilim sont d'un niveau supérieur à la Torah. Bien sûr, rien n'est supérieur à la Torah. Mais c'est pour indiquer d'emblée où on se situe. Le troisième point que je voudrais dire sur le Tehilim, c'est que bien évidemment s'exprime à travers tous les textes des Tehilim la vie de leur auteur principal, à savoir David HaMelech. David HaMelech est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il a connu des tas d'épreuves. Non seulement il a été jalousé, il a été menacé de mort, on a voulu le tuer. Il a dû s'enfuir. Il a connu la disgrâce de la royauté. Il a connu la trahison de son propre fils, Avshalom, qui a été pour lui l'épreuve la plus dure de sa vie. En un mot, la vie de David HaMelech n'a pas été un long fleuve tranquille. Est-ce qu'il y a de caractéristiques dans sa vie? Est-ce que dans toutes les épreuves, dans toutes les souffrances, dans toutes les galères, il a récité des Tehillim. Il a prié. Même quand il s'est trompé, il a commis une faute avec la femme de Bathsheba, on dit qu'elle n'est pas sa femme, il a fait teshuva et il nous a indiqué qu'il fallait faire teshuva à tout prix, quelle que soit la gravité de la faute. Tous ces enseignements sont en filigrane dans les Tehillim. Donc dans les Tehillim, ce qui s'exprime, face à la troisième idée, c'est la vie exceptionnellement riche de David HaMelech et son shrout, son mérite. Il a invoqué Dieu et Dieu lui a répondu. Donc de là vient la croyance que lorsque l'on récite les Tehillim, on a toujours la réponse de Hachem. Je donnerai un exemple tout de suite après. La quatrième chose que je voudrais dire et qui a motivé la récitation des Tehillim de ce soir, c'est que nos sages nous disent que les Tehillim donnent du nahat, c'est-à-dire de la sérénité à l'âme des défunts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui n'est plus de ce monde? Maître dit, rester des Tehillim. Parce que cette prière que nous avons fait maintenant, qui a duré quelques minutes, elle va jusqu'au trône céleste, là où se trouvent les âmes des tzadikim, notamment ceux des victimes du drame de Toulouse, et on apporte à leur âme un bienfait. Pour illustrer cela, simplement de façon très très empirique, je voudrais vous donner deux petites expériences que j'ai vécues moi-même, qui paraissent insipides par rapport à ce que je viens de dire. Mais comme je les ai vécues, moi, à mes yeux, elles sont grandes. Il y a pas mal d'années, nous nous sommes rendus avec ma femme et mes enfants dans la maison des beaux-parents d'ailleurs d'Ephraïm qui est là pour faire la demande de mariage. Il est là, Ephraïm, non? Ah, il n'est pas reparti. C'était, je crois, il y a 40 ans, enfin, je ne sais plus. Et on descend de chez eux, il était environ minuit, ou plus, et les personnes qui descendaient avec nous, donc des membres de ma famille, étaient peut-être trop nombreux, en descendant l'ascenseur se bloque, impossible d'ouvrir les portes. Il y a un numéro, vous savez, de secours, on l'appelle, ça ne répond pas. Qui m'accompagnait à l'époque, il y avait deux agents des renseignements généraux, et là j'ai pris une grande chouma. Il y en a un qui m'a dit, je me rappelle même de son nom, il s'appelait Monsieur Petit. Depuis, il est grand à mes yeux. Il me dit, il n'y a pas une prière qu'on peut réciter. Le flic. Or, j'ai sorti un télim, j'en ai dit un, la porte s'est ouverte. Authentique, hein, je ne suis pas un mytho. Hein. Deuxième récit. Je devais me rendre à Marseille pour embarquer dans un avion qui, malheureusement, transportait le corps d'un rave, d'un très bon ami à moi, le rave Philippe Cohn, pour ceux qui ont entendu parler de lui, où la famille et toute la communauté de Marseille avaient organisé un départ pour accompagner son corps à Yerushalayim. Je voulais donc me joindre à cette Levaya. Je prends un vol régulier de Air France à Roissy. Tous les passagers montent à bord, s'installent. On entend le commandant de bord qui nous dit au micro, « Mesdames et messieurs, nous sommes désolés. Le décollage est impossible. Il y a un phénomène climatique très rare à Orly. C'est un brouillard épais qui limite la visibilité à quelques mètres. La tour de contrôle interdit tout décollage. » Et il ajoute, et il prévoit au moins 2 heures, sauf miracle. Moi, j'entends ça. J'appelle une hôtesse de l'air, je dis, mademoiselle, je me présente, je dis, je voudrais parler au commandant de bord. Elle me dit, viens, venez. Je vais dans ma cabine, et je dis au commandant de bord, vous avez bien dit, sauf miracle. Il me dit, oui, oui. Alors, je dis, ben ça c'est mon boulot. Alors il me dit, d'abord il commence par me dire, vous savez, parce que a priori ça ne bougera pas avant moins de 2 heures. Je suis dans la cabine. Je sors mon télim, j'en dis un, la tour de contrôle appelle, on peut décoller. Je rentre dans la cabine comme ça, en roulant les épaules. Et à ce moment-là, le commandant de bord, il a été très sympa. Il sort à son tour, et fort pour tous les passagers entendre. Il dit, mesdames et messieurs, le miracle a eu lieu, nous allons décoller, mais moi je voyage plus sans le grand rabbin. Voilà 2 petits exemples de la vie de tous les jours, de la force des Tehillim, qui sont en fait simplement le moyen de reconnaître que nous on n'est rien du tout, et que c'est Hachem qui peut tout. Et surtout, ces 2 exemples sont, je disais, insipides, et font partie de la vie de tous les jours. Qui n'est pas bloqué un jour dans un ascenseur, ou bien n'est pas un jour bloqué à un aéroport? Tout le monde. Il y a des gens qui ont été bloqués dans un TGV là, pendant des heures, il n'y a pas si longtemps. Parce qu'à mon avis, il n'y en a aucun qui a dit Tehillim. S'il y en avait eu, on aurait entendu tout. Hop là. Et c'est, je ne dis pas que c'est systématique, automatique, mais ça marche très souvent. Alors pourquoi ne pas essayer ? Pour toutes ces raisons, je tenais à ce que on commence notre cours de ce soir, qui est un peu quelque part un hommage aux victimes et un peu l'expression d'un sentiment profond, indicible, qu'on commence par réfléchir un peu sur les Tehillim. Ensuite, je voudrais vous tirer quelques enseignements très simples mais très importants à mes yeux de ce qui s'est passé. La première des choses, il y en a en tout quatre, ça vous suivez le raisonnement, que j'aimerais que l'on se souvienne, c'est que ce qui concerne un juif dans le monde, même que je ne connais pas, même qui est à l'autre bout du monde, me concerne. Ça, c'est la leçon première du peuple d'Israël. Appelez ça comme vous voudrez, la solidarité, si vous voulez. Pour moi, c'est un mot trop faible. Je préfère lui substituer une image que vous m'avez peut-être déjà entendu dire. Il y a un rave de la génération d'avant à qui on a posé la question suivante. On lui a demandé, est-ce qu'un bébé qui viendrait au monde avec deux têtes a droit à une part ou deux parts d'héritage ? Au départ, c'est une question technique. Et le rave a répondu de façon admirable. Il a dit, si on verse de l'eau bouillante sur une tête et que c'est l'autre qui crie, c'est que c'est un même corps. Et en fait, dans sa parabole, il faisait allusion au peuple d'Israël. On touche un juif quelque part au bout du monde. Moi, je pleure. Ici. Je ne le connais pas. Je ne le rencontrerai jamais. Mais je vis avec lui. Ça, c'est une des grandes leçons et de Toulouse et de l'histoire du peuple d'Israël. La troisième leçon, qui est une des caractéristiques majeures du peuple d'Israël, c'est que, vous allez tout de suite saisir, pour le monde entier, un juif, c'est tous les juifs. En effet, on nous assimile tous au peuple d'Israël. Quand quelqu'un, une fois ou l'autre, nous traite de sale juif, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Peut-être qu'un jour il a eu une galère avec un juif ou une embrouille, il se venge sur vous. Vous n'avez rien fait. Vous êtes là, gentiment, dans la rue, dans le métro, dans je ne sais quoi, il vous insulte. Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait ? Si vous voulez m'insulter, c'est peut-être parce que je vous ai marché sur les pieds, je vous ai bousculé, je vous ai volé quelque chose. Non, non, rien. Il y a un jour un juif qui... Et nous, on est dans le même bas. Cette leçon, elle est extraordinaire. D'abord parce qu'elle est universelle. Elle a existé à tous les temps, dans tous les lieux. Et elle est beaucoup plus qu'une simple assimilation d'un juif à un autre juif. C'est un peu comme si le monde avait compris que Israël, c'est une seule et même entité. Maintenant, je voudrais vous donner quelques exemples pour illustrer cette idée-là. Le premier exemple qui m'avait à l'époque beaucoup marqué, en 1981, c'est M. Mitterrand qui est élu président de la République. Vous ne voyez aucune allusion avec la période actuelle. Hein. Il y avait dans la communauté juive un certain monsieur qui s'appelait M. Lévy, qui était de Nancy, qui était un grand admirateur de M. Mitterrand. Dès qu'il a été élu, ce monsieur qui était fortuné a fait don au Louvre de la plus grande collection d'œuvres d'art moderne au monde. Vous entendez bien. Et encore aujourd'hui, si certains sont intéressés, ils peuvent se rendre au musée du Louvre et visiter dans la partie des arts modernes la collection Lévy, que ce monsieur a offert à la France en hommage au nouveau président. Écoutez bien. À ce moment-là, paraît, je ne suis pas un lecteur de ce journal, Mais dans un journal prétendu, autorisé, qui s'appelle Le Monde, un article en première page, que j'ai pratiquement par cœur dans ma tête. Cet article disait comme ça, « Monsieur Lévy, virgule, juif, virgule, originaire de Pologne, a émigré en France dans les années, où il a bâti sa fortune. Et il vient d'offrir au Louvre la collection Antenne. Et le journaliste ajoute, c'est là qu'il y a la flèche, juste retour à l'égard d'un pays qui l'avait enrichi. Donc vous avez bien compris. Maintenant j'imagine qu'au lieu de Lévy, ce monsieur s'appelait Dupont, qu'il était originaire du Morbihan. Est-ce que l'auteur de l'article aurait dit « Monsieur Dupont, catholique, né dans le Morbihan, etc. » Pas du tout. On s'est rappelé que Monsieur Lévy était juif, qu'il est devenu riche en France, grâce à la France, qu'il s'est enrichi, entre guillemets, sur le dos de la France, et que maintenant il vient payer un petit peu cet enrichissement, comme un juste retour du mot. C'est plus scandaleux que ça, il n'y a pas. Ça s'appelle, ça, de l'antijudaïsme camouflé. Dans un journal, je répète, plutôt de gauche, aux idées larges, généreuses et, je répète, très considérées dans la bourgeoisie française, qui s'est permis d'écrire ça. Ça ne rate jamais. Deuxième exemple, pour illustrer cette idée-là, j'étais au début de mon rabbinat, rabbin à Strasbourg, et je m'occupais en particulier des jeunes, toujours aussi permanent. Je n'ai pas changé. J'ai pris quelques années, mais ça ne se voit pas. Et donc, j'organisais beaucoup d'activités, et comme j'ai été, et je suis toujours, un grand amoureux de football, j'avais décidé un soir de les envoyer, de les accompagner, voir un match de football. Nous allons donc voir ce match. Il se trouve, c'était au départ un hasard, mais qui n'en était pas un parce que je suis originaire de Nice, c'était Nice qui jouait contre Strasbourg. Alors écoutez bien. Nice fait un match hors du commun. Il marque un but, deux buts, trois buts, quatre buts. On est 4-0. Donc la cause est entendue. Le match est sur la fin. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Peut-être 10 minutes avant la fin, il y a un pénalty qui est sifflé pour Strasbourg. Le joueur qui le tire s'appelle Spiegel. C'est un Israélien. Moi je le connaissais, il se trouve parce que son fils, il avait 3 ou 4 ans, était inscrit au jardin d'enfants de la communauté. Il tire le but, le ballon, et il fait un très beau tir. Mais voilà que le goal, il fait un arrêt qu'on fait une fois dans sa carrière. Il plonge du bon côté, et dans la lucarne, il arrête le ballon. Écoutez bien, je vous prie pour faire un commentaire de foot. À ce moment-là, il y avait 25 000 spectateurs, on entend tout le stade hurler, « Sale juif, retourne chez toi, les juifs au four !» Une excitation et un délire, invraisemblable. Il y avait avec moi une vingtaine de jeunes, tous ils nous regardent désespérés, ils disent « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Ils sont 1000 fois plus nombreux que nous. On n'a évidemment rien fait. Et ça m'a marqué. Depuis d'ailleurs, je ne suis plus retourné dans un stade où je n'aurais jamais dû mettre les pieds. Mais ce n'est pas pour vous confesser mes fautes que je vous dis ça. C'est pour vous dire, voilà la mentalité. On a oublié que ce joueur-là était le meilleur joueur de l'équipe de loin, qu'il avait marqué le plus grand nombre de buts dans toute la saison, qu'il avait là tiré un tir, juste, il avait envoyé le ballon dans, je ne sais pas au moins, dans le ciel, peut-être qu'on aurait pu râler. Il tire un joli tir, puissant, bien placé. Et le goal, il fait un arrêt miraculeux, tout de suite, ça juif. Aucun rapport. Voilà la condition d'Israël. J'arrête là des exemples, il vaut mieux, parce qu'après on va avoir une grande race à quoi. vous illustrer cela, je vous l'avais déjà une fois cité, mais peut-être que vous l'avez oublié, le plus grand savant de tous les temps s'appelle Albert Einstein. Il a écrit une théorie qu'on appelle la théorie de la relativité, qui allait révolutionner de façon radicale toutes les connaissances scientifiques du monde entier. Albert Einstein a écrit lui-même une autobiographie dans laquelle il a dit la chose suivante. Il avait d'abord l'honnêteté de reconnaître, comme tous les gens honnêtes, il avait dit « J'ai très peu connu ma tradition. » En d'autres termes, je ne connais pas le judaïsme. Mais j'ai appris de ma tradition l'amour de la connaissance pour la connaissance. Entre parenthèses, c'est un très bel hommage de l'homme le plus savant du monde. Et alors il a écrit donc la théorie, il dit comme ça. Si la théorie de la relativité, que je commence maintenant à écrire, s'avère exacte, les Allemands, parce qu'ils vivent en Allemagne, diront que je suis allemand. Les Américains, parce qu'il était de nationalité américaine, diront que je suis américain. Les Français diront que je suis un grand savant. Et si elle s'avère fausse, tout le monde se rappellera que je suis juif. Exceptionnel. Et c'est avéré exact pour le prochain. C'est une des raisons pour lesquelles je vous raconte tout ça, que lorsqu'il y a quelques mois, sont arrivés en France, enfin du moins à l'étranger, bien plus en France, des incidents relatifs à un candidat potentiel à la République, vous ne cliquez pas, des initiales. Oui ou non? DSK, qui était de loin le candidat le plus intelligent, le plus capable. Quand j'avais entendu qu'il allait se présenter, mes proches pourront vous dire, j'ai dit pourvu qu'il ne soit pas élu. Parce qu'un président juif, c'est une catastrophe. Si ça ne marche pas, ce sera de sa faute. Et si ça marche, ce sera aussi de sa faute. Quoi qu'il en soit. Donc ce n'était pas bon pour moi. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas de tout cela que je fais un complexe. Mais pour vous dire que l'approche du monde à l'égard des Juifs, elle est totalement illogique, incohérente, et il ne faut pas chercher à comprendre. Au point que d'ailleurs la Gemara, le Shabbat dira, la manikra shemo Sinaï, pourquoi la montagne sur laquelle on a reçu la Torah s'appelle le mont Sinaï, mi peneche mi kan yarda sin ala olam, parce que c'est de là-bas que la haine est descendue du monde. Vous entendez bien? Ça aurait pu être un texte antisémite. Il est dans la Gemara de Shabbat qui dit on a reçu la Torah au mont Sinaï parce que Sinaï, en hébreu, ça rappelle la racine Sina qui veut dire la haine. Et Rashi sur la Gemara dit Mipenei chez Israël qui blouba Torah. D'où vient la haine des nations? Parce que nous avons reçu la Torah. Le Rif, un autre grand commentateur, Rabbi Tzak al-Fassim, dit Mipenei chez Emlo qui blou Torah. Quoi qu'il en soit, c'est le même esprit. Le monde ne supporte pas que nous ayons été choisis comme étant le peuple de Hachem. Il nous a honorés en nous donnant la Torah. Et ça, ils ont les boules. Il faut dire que on a mérité. On a bavé pour cela. Et on continue de baver. Mais on n'a jamais arrêté. On ne s'est jamais découragé. Il y a un midrash très beau et très triste à la fois qui dit que lorsque Abraham a commencé à aller dans les chemins de Hachem, Dieu lui a dit « Je vais choisir ta descendance pour être mon peuple. » Et Abraham a demandé à Hachem « Est-ce que je peux avoir une idée de ce qui les attend ?» Et Hachem lui a montré dans une sorte de vidéo les persécutions que les Juifs allaient subir. Et à ce moment-là, Hachem dit à Abraham, si tu veux, on laisse tomber, je choisis un autre peuple. Et Abraham a dit non, je veux, j'accepte. Et Hachem lui a montré tout, il lui a montré la Shoah, Ils y ont monté l'école observatoire de Toulouse, tous les endroits pendant des millénaires dans lesquels on a assassiné des juifs, parce qu'ils étaient juifs, point final. Ils n'ont rien fait de mal à personne. Un peu comme pour nous dire que dans la vocation d'Israël, il y a une épreuve permanente. On va voir tout à l'heure, dans notre dernière partie, une illustration un peu différente. Mais je tenais déjà à le dire ici maintenant. Et alors donc, c'est en quelque part, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de jalousie. Et la raison pour laquelle le vocable le plus connu des antisémites, c'est « sale juif », c'est qu'en fait, comment on dit « juif » en hébreu ? Yehudi. Yehudi, ça vient de quel mot ? Yehuda. Quelle est la caractéristique du mot Yehuda en hébreu ? Le nom de Hachem, bravo, je ne sais pas qui a répondu, mais bravo. C'est le seul prénom hébraïque qui comporte un Yud, un Hé, un Vav et un Hé, c'est-à-dire les quatre lettres du nom de Dieu. En fait, c'est un peu comme si dans leur inconscient, quand les nations du monde nous traitent de sales Yehoudim, Kaviachol, ils veulent insulter Hachem. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé quelques fois, pas beaucoup dans ma vie, d'avoir été traité de sale juif. Un jour, je me souviens, j'habitais Marseille, à l'époque j'étais un peu chaud comme les Marseillais, et je conduisais, et à un moment donné, donc je tourne, enfin j'ai rien transgressé au niveau du code de la route, il y a un monsieur qui me voit, parce que je dois avoir des signes extérieurs de richesse qui font que je suis perçu en tant que juif, il me crie fort dans la rue, « Sale juif !» C'est ce que je lui ai répondu, « Merci !» Tant pis. D'abord, je l'ai coupé d'un peu, mais ça me dit bien. Il était mal, mais quand je dis il était mal, j'ai eu de la peine pour lui. Je faisais descendre d'embrasser. Tellement il m'a fait de la peine. C'est un honneur. Vous vous rendez compte ce que c'est ? On est porteur du nom de Hachem. Et eux, ils veulent salir ça. Non, ils n'arrivent pas. Ils n'arriveront jamais à le salir. Parce que nous, on est conscient de la hauteur de notre mission, de la grandeur de notre mission. Et on est conscient du prix qu'il faut payer pour la mériter. Je vous répète, ce qui est dur, c'est que même quand on choisit pas, c'est comme ça. Il y a beaucoup de juifs qui auraient peut-être souhaité quitter le peuple d'Israël. C'est trop dur. C'est insupportable. Ils n'ont pas fait. Et vous savez que lorsque tous nos persécuteurs, pour ne citer que les plus terribles, les nazis, Marchemam, ont persécuté les juifs, ils n'ont pas demandé s'ils étaient religieux, s'ils croyaient en Dieu, s'ils allaient à la synagogue. Il y a des gens qui, pendant la guerre, pensant échapper par là à la déportation, sont allés se faire baptiser à l'église. Vous savez sûrement. Quand ils ont présenté ça, certificat de baptême, les nazis ont dit non, non, c'est de la complaisance. Ils ne croyaient pas, ils ne pouvaient pas croire qu'un juif il va arrêter d'être juif. Écoutez, on a le droit d'arrêter. J'appartiens à un club, et puis mon équipe, elle me déçoit. Je veux rendre ma carte de membre. J'ai le droit. Je démissionne. On ne peut pas démissionner du peuple d'Israël. Quoi qu'il arrive, on en fait partie. On est considéré comme tel par tout le monde, quelles que soient nos opinions. Je voudrais bien, excusez-moi, j'insiste, ça vous paraît peut-être élémentaire, mais c'est une idée unique. On ferait ça pour aucun autre peuple dans l'histoire. C'est peut-être là toute la grandeur d'Israël. C'est qu'il n'attend pas d'être remercié, félicité. Quand ça arrivera ? Ça arrivera un jour, les prophètes l'ont dit, je vous l'avais déjà dit une fois. À la fin des temps, le monde entier, tout le monde, reconnaîtra la grandeur du peuple d'Israël. Et là, quand ils verront passer un juif, ils applaudiront, ils n'insulteront plus. Et à ce moment-là, dit la Gemara, c'est dans Yebamot, page 47, il est dit, on n'acceptera plus de convertis. Déjà qu'on n'accepte pas beaucoup, mais là-bas, à ce moment-là, plus un seul. Pourquoi ? Ça deviendra un honneur d'être juif. Tandis qu'actuellement, la Gemara dit comme ça, si on voit quelqu'un qui vient, il va voir un rabbi, il dit, monsieur le rabbi, je voudrais devenir juif. D'abord, on lui prend la tension artérielle, savoir s'il n'est pas en déprime. Ensuite, on demande un examen psychiatrique avec contre-expertise. S'il n'a pas de température, qu'il a une tension artérielle normale et qu'il a l'air normal, on lui demande, tu as un intérêt quelconque, tu as connu une juive, ou alors c'est une jeune fille, on lui dit, vous avez connu un garçon. Si on dit, c'est pas normal. Comment comprendre? Alors peut-être qu'il ne sait pas. Vous voyez bien, c'est ce que je vous dis, c'est la halakha. C'est un devoir. Le rav qui voit venir un candidat doit lui demander, est-ce que vous savez que les juifs sont d'un peuple persécuté? Oui, monsieur Norman. Vous savez qu'ils sont un peuple haï? Oui, monsieur Norman. Est-ce que vous savez que si demain vous êtes converti, vous serez traité de juif? Oui, monsieur Norman, et je n'en suis pas digne. Comme ça dit le texte. Et s'il dit ça, alors on commence à lui apprendre le judaïsme. Et moi, je me souviens, un jour, j'ai dit ça dans une conférence à Natania. Après le chiour, il y a un monsieur qui vient me voir, qui me dit, monsieur Rabin, je suis venu vous dire que vous avez raison. Je dis, malheureusement. Il me dit, non, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis converti. J'habite Paris. Je suis allé au consistoire faire les démarches. Et puis un jour, j'ai reçu enfin mon papier de conversion. Je suis monté dans le bus. Quelqu'un m'a traité de saint-juif. J'ai compris que je l'étais vraiment. C'est un témoignage. Vous voyez que dans cette situation-là, il y a quelque chose quand même d'unique. C'était le point numéro 2 que je voulais vous exposer. En fait, pardon, le numéro 3. J'arrive au quatrième. Tout ce que je viens de dire a une conséquence évidente sur nos vies à tous, individuelles et collectives, c'est que nous avons pas seulement un destin commun, nous avons un capital en commun. Et c'est là où j'en viens, à une des, puisque le titre de notre cours s'appelait « Que devons-nous faire ?» Voilà la réponse. On va tenir en deux points. La première des choses qu'il y a à faire, c'est non seulement à continuer de rester juif, mais à renforcer notre capital commun. C'est un peu, moi je dis comme ça, comme si les juifs ont été une SARL, une société comme ça, anonyme, dans laquelle chacun avait des actions. Mais les actions, ce n'est pas des actions achetées en bourse, c'est des mitzvot. Et vous savez que les mitzvot, elles ne sont pas comptées en bourse. C'est impossible. Que toutes les autres valeurs vont s'écrouler et elles ne vont pas arrêter de prendre de la plus-value. Alors on a été souvent, ils m'ont demandé, les présidents de la République, on ne peut pas essayer d'introduire, par exemple, le Shabbat en bourse. Non, c'est impossible. Bon, qu'est-ce qu'elle va dire la bourse tous les jours? L'action Shabbat a monté, et ainsi de suite. Elles ne peuvent que prendre de la valeur. Mais ces actions-là, elles vous appartiennent à tous. On a un capital commun qu'il faut maintenant, après Toulouse, comme après tous les drames de notre histoire, au lieu de l'appauvrir, il faut l'enrichir. Il faut augmenter notre portefeuille en action. Multiplier les mitzvot. Multiplier les tfilot. Par exemple, ce soir, les actions des juifs dans le monde entier ont pris une plus-value extraordinaire. Grâce à vous. Chaque fois qu'un juif, quelque part dans le monde, accomplit une mitzvah, vous savez ce qu'il fait? Il y a d'ailleurs une prière que certains disent avant, « Bechem kol Israël ». J'accomplis cette mitzvah au nom de tout le peuple juif. Vous croyez que vous appelez mademoiselle Intel, monsieur Intel, vous êtes venu assister à un cours de Rav Sitruk à l'avenue Hoche? Non. Vous êtes venu gonfler le portefeuille en action de tout le peuple d'Israël. L'avantage de ce portefeuille, j'ai dit d'abord ce qui ne diminue jamais, et qu'en plus, il a une valeur qui ne va pas dépendre du marché boursier, mais que de vous. C'est-à-dire la valeur. Suivez bien, parce que c'est une idée peut-être simple, mais à laquelle il faut être attentif. Que vous allez vous décider. Imaginez qu'il y ait une bourse dans laquelle les gens qui placent des actions décident, eux, de la valeur de leur action. Comment? Comment ça marche? Par exemple, si moi je décide que parmi mes actions, il y en a une qui s'appelle Shabbat, et que mon patron, il me propose de travailler Shabbat. Je dis non. Je me dis, mais monsieur, je ne vais pas vous payer à la fin du mois. Si je gagne 10 000 euros par mois, répondez 5, ça fait 2500 euros par Shabbat. Si je refuse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai économisé 2500 euros. Si j'ai accepté, j'ai décidé de vendre, de liquider mon action Shabbat à 2500 euros pièce. Or, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire? Ils ont dit, on refuse de transgresser le Shabbat. Écoute, même si on vous paye, je suis sérieux, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 100 millions d'euros, 1 milliard d'euros, vous avez bien entendu. Le budget du monde entier. Allez, monsieur, faites-moi plaisir, allumez une bougie. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la valeur du Shabbat. C'est comme ça que le peuple juif a réagi. Si pire, on lui a demandé sa vie. Voilà, monsieur, vous êtes prêt à transgresser le Shabbat? Non, on vous tue. Si vous voulez tuer, bon. C'est ce qu'on a fait. On a placé l'action du Shabbat au-delà du prix de la valeur d'une vie humaine, c'est-à-dire un prix impossible à formuler. Voilà quelle est la grandeur du peuple d'Israël. C'est lui qui a déterminé le prix des mitzvot. Alors aujourd'hui, ce que je vous demande, ce que Hachem sans doute attend de nous après cette grande épreuve, c'est qu'on fortifie notre budget, notre capital commun, et qu'on lui donne une valeur inestimable. Ces enfants-là, on les a pu parce qu'ils étaient juifs. Qu'est-ce qu'a fait le meurtrier? Il a fait ce qu'il a fait, il rendra compte qu'il est de droit. Comme d'ailleurs ont répondu les parents des victimes, bon, ça ne m'intéresse pas ce qu'on lui fera. S'il meurt, il meurt. S'il meurt pas, il meurt pas. Je m'en fous. Moi, je vois qu'on a tué mes enfants, mes petits-enfants. Et je vois que eux, ils ont payé le prix de l'appartenance au peuple d'Israël. Je crois que quand on a compris cette idée-là, on a compris qui on est et où on va. Maintenant, j'aimerais arriver à, dans ce cadre-là du numéro 4 de mon chiour, il y en a 5 en tout, je vous l'ai dit, c'est, en l'occurrence, on n'a pas tué des Juifs seulement. On a tué des enfants juifs. Évidemment, immanquablement, moi, ça m'a fait penser à la période que nous traversons, ça s'appelle la période de l'Omer, qui fait que nous n'avons pas fait de musique ce soir. Vous savez que jusqu'à l'Ag BaOmer, on ne fait pas de mariage, on ne fait pas de musique, on ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux, on est en deuil. Et pourquoi on est en deuil? Parce qu'il y a presque 2000 ans, il y a 24 000 enfants, les élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts. C'est un traumatisme considérable. Ici, pour 3 enfants, vous avez vu le choc. Imaginez 24 000 qui sont morts en 32 jours, c'est-à-dire des centaines d'enterrements tous les soirs. Le peuple d'Israël a été marqué pour l'éternité. Mais plus que cela, il y a le fait que nos sages ont demandé, mais quelle est leur faute? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la réponse, elle est surprenante. Elle est, nous coupe les pieds. Le Talmud dit, ils sont morts parce que loyou, noagim kavod zenazen. Parce qu'ils ne se faisaient pas, ils ne s'honoraient pas mutuellement. Le kavod. Kavod, pour nous, c'est un peu la politesse, la courtoisie, l'attention à l'égard du prochain. Et pour ça, on fait mourir des gens. Des enfants. Si le peuple juif a pris la leçon pour l'éternité, qui est la leçon que moi, je veux ramener à notre problème à nous. c'est que le kavod, c'est quoi? Honorer autrui. Répondez-moi à cette question, vous, maintenant. Qui, dans la vie, vous respectez, vous honorez? Ne jouez pas aux religieux, hein, dites-moi toutes les réponses que vous voulez. Hein? Nos parents, trop religieux, c'est pas une réponse. Une réponse un peu moins religieuse. Hein? Quoi? J'entends pas, attends, mademoiselle. Attendez, j'entends bien les enfants.
En fait, on a inversé les rôles, non?
Hein?
En fait, on a inversé les rôles, parce que d'habitude, c'est celui qui pose des questions.
Non, mais là, moi, j'en pose une parce que je veux savoir. C'est dans le cadre du cours, c'est pas la fin du cours, il y a encore 2h30 du cours. Donc, c'est dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un que l'on honore, que l'on respecte? Alors, quelqu'un m'a dit les parents, bravo! Mais je dis, c'est une réponse un peu trop. Dieu, ça c'est encore plus grand, mais. Essayez de vous mettre au niveau du peuple. Le patron d'une société, par exemple. Comment? Mais arrêtez le Shabbat, trop religieux, soyez un peu moins religieux.
Des gens âgés,
pas mal, mais tout ça. Trop religieux. Moi, je vais vous dire qui j'honore. Hein? Non, par exemple, Messi, le joueur du Barça. Non, ça veut dire une vedette. Par exemple, le meilleur chanteur du monde, le meilleur joueur de foot du monde, le meilleur artiste. Pourquoi je vais l'honorer? Pourquoi je vais respecter et honorer quelqu'un? Réfléchissez avec moi. Et comme moi qui réfléchis ici. Pardon? Je n'ai pas compris. Vous avez donné quoi? Je n'ai pas entendu ça dire. De l'estime. Oui, j'admire, tu veux dire, c'est ça que tu veux dire. J'admire quelqu'un, donc je le respecte. Et j'admire quelqu'un, en fait, pourquoi? Hein? Parce que quoi? Il est connu ou bien tout simplement? Il est brillant, par exemple. Allez, Canal Plus, où on l'a fait? On honore quelqu'un parce qu'on estime qu'il est supérieur à nous. Moi, je chante moyen, même mal. Lui, il chante bien. Moi, je suis beau gosse, mais lui, alors, hein, il marche, il y a tout le monde qui tombe devant lui. Donc, je suis admiratif. Moi, je suis intelligent, mais lui, il est 100 fois plus que moi, et etc. Ceux que l'on admire, c'est ceux que l'on respecte. Indépendamment de ceux, comme vous l'avez dit très justement, qui dans une conscience religieuse, on a fixé les normes du respect, c'est-à-dire nos parents, nos maîtres, Dieu. Mais on est, nous, dans un univers normatif. Je m'adresse, moi, à l'ensemble de la population, les goïms, qui vont respecter ceux qu'ils admirent. Ah, lui, c'est quelqu'un. Hein. Il est riche, il est intelligent, il a telle qualité. Je l'admire. Oui. Voilà là où était la faute des élèves de Rabbi Akiva. C'est qu'ils ne respectaient pas leurs amis de la yeshiva. Pourquoi? Pour la conséquence de ce que je viens de dire. Parce que tout simplement, tant peut-être que la sauna ne marche pas, non? Parce que tout simplement, personne ne voyait chez l'autre une qualité qu'il n'avait pas. Vous avez suivi? Pourquoi voulez-vous que je l'admire? On a ce jeune homme assis au premier rang. Il est gentil. Pourquoi voulez-vous que je l'admire? Sauf si je reconnais qu'il a une qualité que je n'ai pas. Dans la yeshiva, Les élèves estimaient qu'ils avaient tous le même niveau, et qu'il n'y avait aucune raison de respecter l'autre plus que soi-même. Ça, c'est la fin de la société. Alors, je vais vous dire pourquoi je m'arrête là-dessus, parce qu'il me semble que dans le monde aujourd'hui, y compris la communauté, on ne respecte plus personne, de ce point de vue-là. On n'est pas conscient de la valeur des autres. Pour être conscient de leur valeur, il faut d'abord simplement les regarder, les écouter. Et là, on découvre leurs qualités. Et alors, il y a tout qui change. Et malheureusement, dans les sociétés en général, on vit sous le régime de la terreur. Je respecte mon prof ou mon directeur, parce qu'autrement, il va me punir. Je me lève devant le prof qui rentre, parce qu'autrement, il risque de me sanctionner. Mais est-ce que je l'admire vraiment? C'est pas sûr. Alors, je pense que lorsque je suis arrivé à cette conclusion qu'il fallait, après Toulouse, développer notre capital mitzvot, je pensais aussi à notre capital midot, c'est-à-dire essayer d'améliorer nos qualités morales. Et la première de toutes, celle d'ailleurs sur laquelle tout est basé, c'est le kavod que l'on doit à l'autre, le respect d'autrui. Par exemple, lorsque les Béné Israël sont arrivés au Sinaï, le Midrash nous dit que chaque fois que quelqu'un voyait un bel endroit où poser la tente, il allait vite chercher son prochain, il disait « Tiens, mets-toi là, c'est super. » Là, le sable, il est bien plat, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de rochers, tu vas être bien. Aujourd'hui, quand dans un camping en France, on trouve un bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se précipitent dessus. Essayez, si vous conduisez dans les rues de Paris, de voir qui est-ce qui laisse passer un autre quand il n'a pas la priorité imbécile. Il ne laisse pas passer. Pourquoi toi? C'est la lutte incessante partout. On ne respecte plus les institutions, les personnages qui ont doivent être respectés vu leur fonction, vu leur autorité, le rôle qu'ils ont joué. Et ça, c'est préjudiciable partout. Et notre communauté aussi, elle s'assimile dans ce domaine. Et j'ai pensé que ce serait bien de nous reprendre en main et d'éviter de laisser les choses détériorer davantage. Je vous dis ça parce que quand nous nous sommes rendus avec Ephraim à Toulouse, j'ai eu une longue discussion avec le directeur, M. Monsonigo, qui était le petit-fils de la petite-fille qui a été le grand-père, pardon, de la petite-fille qui a été assassinée. Et il m'a dit, moi je sais pourquoi c'est arrivé. Parce que dans cette école-là, m'a-t-il dit, les gens ne se respectent pas mutuellement, ça m'a frappé. Et j'ai remarqué que le mot kavod en hébreu, kaf, bet, vav, dalet, quand vous additionnez les lettres, ça fait combien? Aidez-moi, kaf, bet, 22, vav, 28, dalet, 32 au total. 32 au total. 32, c'est le nombre de jours de l'Omer pendant lesquels les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Il a manqué le kavod. Il y a donc un tikkun à faire dans le kavod. Une réparation à faire. Et j'aimerais, si les gens aussi de Rabbi Akiva, vous donner un exemple magnifique. Voilà donc un maître, le plus grand maître d'Israël, qui a perdu tous ses élèves. Comme il a dû souffrir. Comme il devait être désespéré. Il n'avait pas 20 ans, il avait 64 ans. Puis il avait commencé à apprendre et enseigner la Torah à l'âge de 40 ans. Il a enseigné pendant 24 ans. Il a construit 24 000 élèves. Et là, d'un coup, ils décèdent tous. Il avait de quoi se jeter par la fenêtre. C'est ce qu'a fait Rabbi Akiva. Il est allé dans le sud d'Israël, aujourd'hui, dans le Gemara, et il a ouvert une nouvelle yeshiva. Et de cette yeshiva sont sortis les 6 plus grands maîtres de l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Anes, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Yehuda ben Aïlaï, Rabbi Yehuda ben Halaftam et Rabbi Elazar ben Shamoa. Les plus grands Tanaïm sont venus de là. Regardez l'exemple que nous donne Rabbi Akiba. On ne désespère jamais. Dans la vie, tout va bien. Puis des fois, ça ne va pas. Puis des fois, ça ne va plus du tout. Puis des fois, on échoue tout. Puis il y a tout qui s'arrête. C'est la fin. C'est jamais la fin. Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'il fait ? Il se relève, il se bat, il reconstruit et il réussit. Et vous savez, moi, je suis très ému quand je donne cette leçon. Parce que je pense à un rave qui a été assassiné il n'y a pas longtemps. On l'appelait Baba Elazar, un étivote, que grâce à un de mes élèves, j'ai eu le bonheur de rencontrer. Il tenait à me voir, moi je tenais à le voir. Bref, on s'est vus tous les deux. Et qu'est-ce qu'il me donne comme enseignement ? Quelques jours après, quelqu'un l'a assassiné. Il m'a dit, dans la vie, ne te désespère jamais. Et il m'a donné l'exemple de Rabbi Akiba. Voilà pourquoi j'estime un devoir de le transmettre à mon tour et de vous dire, voilà, on ne sait pas ce que la vie réserve, peu importe. On se bat toujours et encore et on réussit si on le décide. Voilà comment ont été nos grands maîtres, voilà comment est notre histoire, voilà comment nous devons réagir. On n'a aucune, absolument aucun alibi à avancer. Maintenant, je voudrais dans la dernière partie... Il y a des bruits bizarres. Dans la dernière partie du cours, je voudrais répondre, je m'en posais une question. Faut-il partir de France ? J'ai entendu ça. À droite et à gauche. Aujourd'hui, quand on parle de gauche et de droite, il faut faire attention. On peut se dire aussi, là encore, l'avenir est incertain. Puis maintenant, est-ce que les Juifs sont... en danger en France. Voilà, mes chers amis, ma réponse. Je vais là bien parce que j'ai essayé de condenser en quelques minutes de nombreuses idées. La première, je pense que chacun d'entre nous doit intégrer, je fais bien, je pèse mes mots, c'est enregistré de toute façon. Et comment il s'appelle là ? Chacun d'entre nous doit intégrer mentalement cet objectif dans sa vie. Que vous ayez 20 ans ou 60 ans, ça ne change rien. La finalité d'un juif, c'est de se rendre en Israël. Un, il faut l'intégrer. Mais il faut l'intégrer indépendamment des circonstances. C'est un début de ma vie. La deuxième chose que je veux vous rappeler à cette occasion, c'est que pour arriver à être cohérent dans cette idée, il faut éviter de trop s'implanter ici. C'est-à-dire, imaginez notre vie ici. Par exemple, quelqu'un qui maintenant va acheter des biens immobiliers. On lui dit, voilà, la conjoncture est favorable, on peut investir dans tel et tel et tel programme immobilier. Il veut gagner de l'argent, il investit. Ça, moi je dis aujourd'hui clairement non. Aujourd'hui, chacun d'entre nous qui est dans le monde des affaires ou le monde actif doit uniquement investir pour sa résidence principale et pour son outil de travail. En dehors de cela, forget it. Oubliez toute forme d'implantation durable. Deuxième conséquence. Troisième conséquence de ce que je dis, c'est qu'il faut déjà commencer à préparer son arrivée en Israël. Pour beaucoup de gens, préparer l'arrivée en Israël, c'est acheter un appartement. S'ils ont les moyens, très bien. Ce n'est pas ça dont je parle. Ça aussi. Mais surtout, il faut se rappeler ce que maintenant je vais développer pendant quelques minutes, qui pour moi est essentiel, c'est de vous dire quelques mots sur la terre d'Israël. Je vous demande vraiment votre attention, même si c'est la fin du cours. Il y a un texte de nos Chachamim qui dit « Celui qui va s'installer en Israël, Il fait trois pas, il est pardonné de toutes ses fautes. Et au quatrième, il commence à être jugé. Il vaut mieux rester sur place. Hein. Ça veut dire quoi? On ne va pas en Israël, Jean, parce que il fait meilleur qu'à Paris. C'est vrai, là-bas, ils attendent la pluie. Nous, on en a. D'accord? Donnez quel exemple? Les nuages, les Israéliens, ils attendent avec des jumelles. Nous, on les repousse. D'accord? C'est pas pour ça qu'on parle là-bas. Pour être plus sérieux, il faut comprendre quelque chose au pluriel, fondamental. Dès l'origine du peuple d'Israël, c'est-à-dire avec les patriarches, ça a été dit à Abraham, ça a été dit à Yitzhak, ça a été répété à Jacob. À chacun, Hachem leur a dit, cette terre-là, je la donnerai aux enfants. Vous irez là-bas, un peu comme on présentait leur vocation en tant que peuple, en tant que religion, en même temps qu'on leur parlait d'une terre, on dit en français la terre promise, qui leur avait été promise. C'est-à-dire que la terre d'Israël fait partie intégrante de l'identité juive. On se réalise dans une identité là-bas. Et c'est pour cela qu'on y va, pas pour autre chose. Le but, et quand j'entends moi tous les discours comme vous, peut-être faites plus attention, moi je suis encore un peu attentif. Ce que tout le monde veut, c'est un État d'Israël aux frontières sûres et reconnues. C'est pas pour ça qu'on fait un État. Sûr et reconnu. On est là pour faire un État comme les autres États, comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Ah, Israël, enfin un État. Et des frontières, tout le monde est là. Là-bas, c'est Israël, vous voyez. C'est pas ça. C'est pas pour ça, d'ailleurs, on ne les aura jamais. Je me rappellerai toujours, il y a quelques années, c'est un petit fait divers qui passait inaperçu de la grande masse. Il y avait un président de la région Alpes-Provence-Languedoc qui s'appelait M. Blanc, je me rappelle, parce qu'il était tout sauf blanc. Il avait organisé dans, je ne sais pas, Montpellier ou pas quelque part, un congrès de tous les pays de la Méditerranée. Il avait donc invité, évidemment, les Italiens, les Espagnols, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens. Et il avait oublié les Israéliens. Et il avait présenté une carte dans laquelle on voyait tous ces pays, l'Égypte, puis après on passait au Liban. Et quand des gens ont interrogé, hein, c'est un oubli. Un oubli. Vous avez la mémoire courte, monsieur. C'était un président de région, un élu important. Nous, des frontières, je sais pas, moi je ne l'ai pas vu personnellement, je lui aurais dit, monsieur, comment vous avez deviné que nous, on n'a pas de frontières, on est partout. En fait, je voulais dire le contraire, mais moi, je le dis, c'est ça que ça veut dire. Le fait de ne pas nous donner des frontières, ça veut dire qu'on est chez nous, partout. Il avait donc tout compris. Bravo, monsieur Blanc. Pourquoi je dis depuis, il s'appelle Noir, je crois d'ailleurs. Tout ceci, nous apprenons d'où? Nous apprenons du patriarche Jacob, qui un jour s'est endormi pour quelques heures par terre, la tête posée sur une pierre, à la frontière de l'État d'Israël. Enfin, ce qui sera un jour l'État d'Israël, c'est Jacob à Vino. Et là-bas, pendant la nuit, il a un rêve. Dans ce rêve, il voit une échelle dont les pieds sont posés par terre. Et le sommet atteint le ciel. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Et au sommet de l'échelle, il aperçoit une immense lumière. C'est Hachem lui-même qui est là-bas. Alors Jacob s'étonne de ce rêve. Il demande à Dieu, c'est quoi ça? Et Hachem lui répond, ça, ce sont les nations du monde qui vont dominer le monde. Et Jacob a vu, et le Midrash est très précis, il avait un premier ange qui a gravi 52 échelons, un autre qui en a gravi 70, un troisième qui en a gravi 180, et un quatrième qui monte, et qui ne voit pas s'arrêter. Alors le texte de la Torah dit « Vaïkatz Yaakov Mishenato ». Et Yaakov a été brutalement réveillé de son sommeil, il a fait un cauchemar, il a demandé à Hachem « Mais où il va ?» Et Hachem lui répond « Altiraf » dit Yaakov. « N'aie pas peur, Yaakov, mon serviteur. Celui-là, quand bien même il monterait jusqu'au ciel, anime au rideau. C'est moi qui le ferai descendre. De quoi s'agit-il ? On parle là-bas, d'après nos sages, des quatre malchouyotes, c'est-à-dire les quatre royautés, qui successivement vont dominer le monde. La Babylonie dans l'Antiquité, à qui a succédé la Perse, à qui a succédé la Grèce, à qui a succédé Rome, la quatrième, qui est en fait le monde occidental, qui est le plus puissant, le plus long, qui désignait l'exil d'Israël le plus long. Et c'est Hachem qui dit, je le referai descendre moi. Et ces quatre royaumes correspondent en fait aux quatre animaux dont la Torah parle. À propos des lois de Kashrout, on a vu ça la semaine dernière, vous savez que la Torah pour les animaux terrestres, elle nous dit que un animal pour être cachère, qu'est-ce qu'il lui faut ? Un sabot fendu, il doit ruminer. Et la Torah précise, elle dit, et un animal qui ne rumine pas, qui n'a pas les sabots fendus, n'est pas cachère. Et elle ajoute, et un animal qui n'a pas les sabots fendus, qui rumine, selon un des deux caractères, n'est pas cachère non plus. Et la Torah cite le chameau, la gerboise et le daman. Le daman, c'est une sorte de marmotte, enfin de lapin sauvage, qui rumine mais qui n'a pas de sabots fendus. Et elle cite un quatrième animal, le porc, qui lui a les sabots fendus mais ne rumine pas. Tout le monde s'interroge pourquoi la Torah a pris le risque de citer ces quatre animaux. Était-ce bien nécessaire ? Il suffisait qu'elle dise, sont cachers les animaux qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Et s'il n'y a pas les deux caractères, ils ne sont pas cachers. Non, elle ajoute, si les animaux ont un caractère, ils ne sont pas cachers. Un ou l'autre. Et elle cite, et il y a quatre animaux qui ont un seul des deux caractères. Pourquoi prendre ce risque ? Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il était ? Un globe-trotter ? Il connaissait l'Inde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, rien du tout. Vous connaissez l'Égypte, Israël, le désert. Alors pourquoi ? Comment il pouvait affirmer une telle chose il y a 3300 ans ? La réponse est très simple. C'est que seul le créateur du monde, qui lui connaît toutes les espèces animales existant sur la Terre, pouvait affirmer une chose pareille. D'ailleurs, depuis tous ces millénaires, on a découvert tous ces continents, on n'a pas trouvé un cinquième animal. S'il fallait en tirer une des preuves de l'authenticité de la Torah, bien écrite par Hachem. Et pourtant, il y en a eu des gens, y compris d'ailleurs des Juifs, des Israéliens, qui ont essayé, notamment un célèbre professeur il y a une vingtaine d'années, qui a essayé de démontrer qu'il y avait tel animal comme ça. Les Chachamim ont démontré que c'était faux. Bref. Ces quatre animaux, nos maîtres dans le Midrash, les identifient comme représentant des quatre civilisations, les quatre nations. Babel, Paras, Yavan, Édom. Et la quatrième, c'est Édom, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire l'Occident, c'est le porc. Et nos maîtres disent pourquoi ? Parce que le porc, comment dit le porc en hébreu ? Chazir. Chazir, ça vient de quelle racine ? Chazar, revenir. Et le maître dit dans le Talmud, pourquoi ? Parce que c'est cette royauté-là qui fera revenir la royauté sur la tête de son propriétaire, c'est-à-dire de Hachem. En d'autres termes, cette royauté qui s'appelle l'Occident, t'as dominé le monde jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin des temps. Après elle, il n'y a rien d'autre. Elle remettra la couronne du monde à son Créateur. Et entre parenthèses, d'ailleurs, quelque chose qui m'a toujours, moi, fasciné, c'est que la terre d'Israël, elle a été sous domination de pays musulmans pendant des siècles et des siècles. Dès qu'il y a eu le mandat britannique, c'est eux qui ont rendu la terre d'Israël aux Juifs. Et donc, la civilisation de l'Occident, elle a rendu la couronne à son propriétaire. Tout ceci pour vous indiquer que la présence du peuple juif en Israël n'est ni un fait politique, ni un fait militaire, elle est un fait spirituel. Ce qu'il y a, c'est que tous ces événements continueront, selon nos sages, jusqu'à la reconstruction du temple. Alors, écoutez-moi bien, parce que j'arrive à ma conclusion. La reconstruction du temple. Où ? On va reconstruire le Beth Amikdash en Indonésie, en Argentine, en Arabie Saoudite. Où on va le reconstruire, le Beth Amikdash ? Répondez un peu, vous m'inquiétez les enfants. Où ? À Jérusalem. Et où ? Au Arabaï, sur le mont du Temple, là où il était pour la première et la deuxième fois. Et là-bas qu'il y a, et c'est un territoire occupé. Vous savez que la mosquée d'Omar était avant une église. Et que ce sont les Byzantins qui ont renoncé à cette église, qui ont permis au calife d'en faire une mosquée. En d'autres termes, une coalition de l'islam et de christianisme pour nous empêcher de construire le Beth Amikdash. Ils n'ont aucun autre sens à leur présence sur la terre d'Israël et à Jérusalem. Ils ont réinventé une nouvelle théologie pour être là, en voulant par là nous empêcher de reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi ? Je m'étonne. Vous savez pourquoi cette méchanceté ? À votre avis, trouver la réponse, c'est fastoche. Hein. Qu'est-ce qu'il va y avoir quand le Beth Amikdash sera reconstruit ? Hein ? Le Mashiach. Et quand viendra le Mashiach, qu'est-ce qu'il y aura alors ? Et Hachem, le Melech al-Kolaret. Et Hachem sera le roi du monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas qui va être élu, par exemple, en France dans quelques jours. Imaginez que le président, à peine élu, vous lui dites exit. Vous vous demandez à l'aise. Vous lui direz parce que c'est Hachem, le Melech al-Kolaret. Vous vous dites, non, je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait campagne électorale ? Il n'était pas sur les listes. Tout le monde voudrait garder sa place. Et Obama, et Sarkozy, et compagnie. Personne ne veut abdiquer devant le roi des rois. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pour empêcher ça, quel est le seul moyen ? Parce que les goïmes, ils savent que la Torah dit vrai. Et que ces événements sont inéluctables. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'accrochent à l'emplacement du Beth Amikdash. Pour nous empêcher de le construire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que bien sûr, on réussira malgré eux et qu'on ne leur demandera pas l'autorisation. Mais ça, ça reste entre nous. Il faut juste savoir que plus les choses deviennent difficiles, et ça, ce sera vraiment notre dernier mot, plus on approche de la Géoula. Je vais vous dire d'où on apprend. La Guémara raconte qu'un jour, pendant la période romaine, c'est Rabbi Yossi Aglili qui était le maître. Il habitait dans la Galilée. Les Juifs étaient menacés de mort par les Romains en permanence s'ils étudiaient la Torah. Il y avait donc un rabbin qui s'appelait Rabbi Yossi, qui, comme tous les autres rabbinim, n'avait jamais arrêté d'enseigner. Sa tête avait été mise à prix par les Romains, et donc se planquait tous. Et il marchait quand il devait se déplacer la nuit. Et on raconte un jour que Rabbi Yossi, avec ses élèves, marchait dans les montagnes de Galilée. Et un jour, une nuit plutôt, la nuit était très noire. Bon, les élèves s'inquiètent. Ils disent, oh, Rabbi, on ne peut pas s'arrêter un peu, parce qu'on ne voit plus où on marche. La nuit est tellement noire, il n'y a pas d'étoiles, qu'on ne voit rien. Alors il leur répond pour leur donner du courage, mais on continue à marcher. Il leur a dit, vous savez pourquoi la nuit est noire? Parce qu'on n'est pas loin de l'aurore. En effet, lorsque l'aurore va se lever, la nuit est très noire par contraste. Et le Rav va ajouter un mot magnifique qui sera notre dernier mot pour ce soir. Kach tie geulatan shel Israël. Ainsi en sera de la délivrance du peuple juif. Plus les événements de la fin du temps seront durs, plus la nuit sera noire, plus l'aube est proche, la geoula est proche. Le message pour nous ce soir est clair. Nous avons souffert avec ses enfants, avec ses familles, avec nos frères. C'est parce que pour nous indiquer que bientôt, on se réjouira tous ensemble.
Nous allons passer aux traditionnelles questions-réponses. Alors, ne partez pas, bien sûr. Merci à Fit d'avoir levé un peu le son. Alors, donc, simplement, je vais passer parmi vous, donc les filles et les garçons. On va peut-être donner la priorité aux jeunes filles. Vous êtes d'accord, les garçons?
Non, non.
Oh là là, les.
Faut pas leur demander de rabbi.
Non, mais bah, ils sont matures, ils ont rien compris au chiot, le cadre, le respect et tout. Ouais, peut-être parce qu'ils sont pas mariés, c'est pour ça.
Non, non, ils ont oublié le vrai respect, c'est de ne pas donner la parole aux filles.
Bon, je vais m'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a une jeune fille qui souhaiterait lever la main, la première, pour une question? Alors, évidemment, les questions on peut évoquer tous les sujets. Évidemment, on n'est pas obligé de revenir sur le coup. On peut choisir le sujet que l'on souhaite. Bon, si un garçon qui veut commencer. Alors, est-ce qu'il y a une main qui se lève?
On a trouvé un pour eux, j'oublie un inconscient.
Bonsoir, Rav.
Bonsoir.
Vous avez dit tout à l'heure, quand vous étiez à Orly, que vous étiez susceptible d'être bloqué pendant 2 heures.
T'es roi.
On est mal barré, là. Hein.
Et vous avez dit que vous avez eu un télim, et je voulais savoir quelle sorte de
télim
vous nous conseillerez si jamais on est confronté dans cette sorte de situation.
Alors ça dépend, si c'est un Revolver France ou un. En boîte sérieuse, moi j'en ai un que j'adore. Je vais vous donner, c'est une confidence, vous le gardez pour vous. Hein. Et il marche généralement très bien, c'est le psaume 121. C'est-à-dire, chier la main à l'autre. C'est un de ceux qui est dans les livrets qu'on veut distribuer. Le 121. Ouf, caf, allez. Et ça, et là, il y a les harim, il y a rien à mémoriser. Ensuite, il y a une question pour la main, Ephraim. Ephraim.
Bonjour, Rav. J'ai une question après Toulouse.
S'il vous plaît.
Alors, avec tous les sentiments que ce que les attentats de Toulouse nous ont inspirés, je pense que je ne suis pas le seul. On a tous également entendu beaucoup, certains juifs qui disaient, voilà, c'est la faute aux Arabes. Tous les Arabes sont des Mohamed Mera potentiels et peuvent s'en prendre à tous les juifs. Donc, il faut tuer tous les Arabes. J'ai même entendu quelqu'un qui me disait, de toute façon, en Israël, c'est écrit dans la Torah par un chavé Yitranan, il y a 7 peuples qu'il faut exterminer. L'un des peuples, c'est les Palestiniens, donc il faut tuer tout le monde là-bas et on sera tranquille. Alors je voulais avoir votre sentiment sur les gens de notre communauté qui, justement, appelaient à la haine envers que ce soit les Arabes, les autres peuples.
C'est faux et c'est scandaleux.
Rien à rajouter sur la question? C'est clair. Alors les jeunes filles, vous êtes réveillées ou pas? Toujours pas? Alors, et je me sens un peu bête là. C'est sympa, elle a posé une question. Voilà.
Bon, je croyais que quelqu'un allait me demander quelle option j'ai dit pour l'ascenseur. Allez-y, alors il y a une question. Allez-y, mademoiselle. Parlez près du micro, s'il vous plaît.
Bonsoir, Rav Citruc.
Bonsoir.
Alors, moi, je voulais savoir comment, dans ces temps difficiles, comment est-ce qu'on peut se protéger de toutes les attaques extérieures, à savoir la jalousie, la haine, que ce soit au travail ou bien dans des endroits publics. Voilà.
Non, merci de ta question, elle est très juste. Moi, je crois comme ça. D'abord, il faut éviter de provoquer qui que ce soit. Par exemple, moi, à Toulouse même, à l'école là-bas, j'ai parlé à tous mes enfants, entre autres, et je leur ai dit, ne traînez pas dans les rues. C'est idiot d'être une cible inutile. Généralement, ceux qui nous veulent du mal, bon, bien ils sont armés, comme ce fou, ou bien ils viennent à plusieurs, c'est donc inutile de faire les malades, et de les provoquer, ou de leur donner envie de faire des bêtises. Donc, première règle, la prudence. Maintenant, bien évidemment, des fois, comme tu as dit à l'instant, dans ton travail, on peut parler de prudence. Tu peux être dans une société, tu es une bonne employée, une bonne secrétaire ou autre, tes collègues vont être jalouses de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, je dis, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, si ce n'est prier. Et pour prier, on a deux armes. Voilà pourquoi j'ai voulu tellement que ce soir on parle de Tehillim, et je remercie le premier qui a posé la question sur quel Tehillim, et que tu te sens menacé, que quelqu'un se sent menacé, le premier réflexe doit venir tout de suite, apprenez par cœur un Tehillim, si vous voulez le 121, si vous voulez un autre, et récitez-le immédiatement. Maintenant, en cas de, on va dire, d'ennui imminent, que vous n'avez pas le temps de rester un déni entier parce que, on va dire, c'est urgent. Il y a une phrase que nos sages nous ont appris qui comprend trois mots. Oui, je vous dise.
Oui.
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 Oui. Ah oui, alors, dites-le. C'est Elaha de Rabbi Meir Aneni. Dieu de Rabbi Meir, réponds-moi. Cette phrase-là, extraordinaire. Il faut y croire. C'est pas un truc magique, Jean-Claude. C'est vraiment y croire que Dieu peut aider, que le mérite d'un très grand sadique comme Rabbi Meir peut opérer. Bon, je me souviens, il y a pas mal d'années, je m'étais fait arrêter sur l'autoroute par des gendarmes juste avant un péage. Ils me mettent sur le bas-côté, bien sûr, avec le rêve méchant. Au papier. Et moi, je dégaine tout de suite. Et là, des remémires à l'ennemi. Le gars, il voit mes papiers. Il me dit, d'abord, monsieur, vous savez quel allure vous voulez? Je dis, non. Il me dit, vous avez été flashé, ça reste entre nous, hein. À 172 km/h. D'ailleurs, depuis, je ne conduis plus. Hein. Alors, moi, je dis comme ça pour un peu détendre l'atmosphère. J'ai une Citroën, XM à l'épaule. Je dis aux gendarmes, vous savez que ces voitures, on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle on roule, hein, ça va vite. Hein. Bon, vos papiers, je sors mes papiers, il voit mon nom, il me dit, vous êtes le célébrissime monsieur Citruc, moi je ne le sentais plus. Je dis, il ne faut pas exagérer. Il me dit, vous êtes le ramin, je dis, oui, bon, allez, ça va, fidèle. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et ça, c'est un petit clin d'œil de Rabbi Meir. Je technologique, n'est-ce pas trompé, hein?
Ok. Alors, en attendant de me diriger vers la jeune fille, je viens de recevoir un SMS qui a été conjointement signé par Sarkozy et Hollande.
Voilà.
Qui nous demande pour qui on doit voter.
Non, non, dis-leur que je suis occupé.
On ne peut pas avoir un consigne de vote.
C'est une vraie question.
Oui.
C'est une vraie question, je vais vous donner une vraie réponse. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que l'on puisse faire conscience à qui que ce soit en période électorale. Maintenant, je vous dis quand même une chose de plus. Les hommes politiques français en général, tous, ont des sentiments très peu amicaux à l'égard d'Israël. Tous. Je les connais assez bien. Par contre, à l'égard de la communauté, ils ont toujours été très sympas. Et notamment, n'interprétez pas ça comme une consigne, l'actuel président, je m'étais rendu chez lui à deux reprises pour lui demander deux choses pour la communauté, il me les a accordées à la seconde. Notamment une que vous connaissez peut-être, c'est l'inscription au bulletin officiel de la République de la fête de Shavuot, dans laquelle tombaient régulièrement des examens. En 2007, l'examen d'entrée au concours de médecine est tombé à Shavuot. Je suis allé voir le président d'alors, M. Chirac, qui est très sympa. Je lui ai annoncé, il me dit, ah non, les meilleurs médecins sont juifs. Si on les empêche d'entrer, qui va y avoir à la sortie? Autant dire. Et il a changé la date. Et quand il y a eu donc des nouveaux, M. Sarkozy était alors candidat, je lui ai dit, écoutez-moi, chaque fois je vais voir le président de la République pour lui demander, j'en ai un peu marre. On ne peut pas régler une fois pour tout le problème, comme il y a Roche Chanaï qui court sur le BO, le bulletin officiel. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter Shavuot? Il m'a dit je le ferai, et il l'a fait. Donc sachez-le. Deuxièmement, je lui ai demandé, il y avait un décret qui était pris à la signature du président pour interdire la Shrita en France, sous la pression des écologistes et des sociétés protectrices des animaux. Et le texte avait été révélé par quelqu'un. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, monsieur le président, si vous interdisez la Shrita en France, ça veut dire aux Juifs allez vous faire voir ailleurs. Il a dit, je ne voterai pas ce décret, il n'a pas voté. Je ne dis pas que Hollande n'aurait pas fait la même chose, vous comprenez bien. Mais je dis que les faits plaident dans le passé en faveur de ceux qui successivement étaient les présidents avec lesquels j'ai toujours entretenu moi d'excellentes relations, que ce soit les Mitterrand qui était de gauche, Chirac, ou Sarkozy. Parce qu'en général, les présidents de l'État veulent avoir des bonnes relations avec la communauté. Et un jour, je me souviens d'un mot d'ailleurs de Chirac qui m'avait dit, vous savez, pourquoi on courtise les Juifs alors qu'ils ne sont pas nombreux? Tout le monde sait bien que nous sommes 1% de la population. C'est pas grand-chose. Pourquoi on tient compte de nous? Il m'avait dit un mot que j'estimais être juste. Il m'avait dit parce que les Juifs, ce sont des faiseurs d'opinion. C'est-à-dire qu'un Juif, ce n'est pas une voix. C'est peut-être 10 ou 100. Parce que même les voyous, nos amis dans le travail et tout, ils nous demandent pour qui tu votes, toi. Si vous leur dites en tête, ils disent c'est sur nous que c'est bien. C'est comme ça la réalité. Alors maintenant, je suis bien embarrassé parce que honnêtement, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup, pour ne pas dire du tout, à la politique. Je crois honnêtement qu'il n'y a pas de réel changement. Ceci étant, je suis un peu conservateur par expérience. Quand quelqu'un ne nous a pas fait de mal, je ne demande rien de plus. Pour continuer à nous faire... nous laisser tranquilles. Voilà. Vous comprendrez.
C'est pas terminé. Et une jeune fille qui a une question à vous poser. Allez-y, je vous aide.
Bonsoir, Rav.
Quand je ne vois pas, elle est où?
Levez juste le doigt, s'il vous plaît, pour que je puisse vous voir. Là.
Non, elle a failli se lever, elle se lèvera pas, elle a la raison.
Non, levez juste le doigt.
Elle reste assise.
Non.
Levez juste le doigt, mademoiselle, que je sache où me trouver, se tourner.
Celui qui est dit debout, vous l'avez convoqué à la fin du cours.
Oui, bon, Laurent.
Oui.
Je vais vous parler ce soir, suite aux événements de Toulouse et suite à plusieurs événements, on voit que c'est les religieux qui ont pris haut. Et comme j'ai assisté à un nouveau cours mercredi soir, vous avez dit, voilà, Dieu est comparé à un champ, et nous, Dieu a son champ. Et au fait, au lieu d'éliminer, d'enlever toutes les racines, les mauvaises herbes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir prendre une rose à la place. Et bon, le lendemain, quand c'est passé, j'ai un ami qui est venu me voir et il m'a dit « Alors, Rachel, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ?» Et je lui ai dit « Je pense que c'est l'heure de se réveiller parce que c'est un appel, Dieu l'appelle, nous appelle, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit, etc. Voilà, il faut se réveiller. » Et je lui ai dit « Attends, toi, qu'est-ce que t'as compris ?» Bon, il m'a dit « C'est pas quelqu'un de très religieux de base. » Je lui ai dit « Voilà, il faut se réveiller et je pense qu'il faut revenir à la religion et je pense qu'il faut prendre sur soi. » Il m'a dit « Rachel, comment tu peux tenir des propos encore pareils ?» Pourquoi tu veux nous convaincre de venir à la religion alors que tu es en train de me dire que c'est toujours les religieux qui prennent? On voit qu'à chaque fois, c'est les gens qui sont impliqués dans la religion qui vont prendre. Et face à ça, bon, j'ai répondu, mais je me suis sentie un peu
sans réponse. Le meilleur moyen de ne pas subir l'antisémitisme, de se convertir au christianisme. Non, c'est exactement le même raisonnement. Je ne veux pas te galérer, donc je ne suis pas juif. Je ne suis pas galère, donc je ne suis pas religieux. Oui, c'est vrai. Il y a un texte de la Gemara qui dit à la fin du temps, le Chavit et Amim, c'est dans Sanhedrin, page 98, Tzirufim après Tzirufim, il y aura difficulté après difficulté pour les gens religieux. Parce qu'eux, ils assument, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai, tout le monde l'a remarqué, moi, à Toulouse, on nous a dit, avec Frère et moi, il y a très peu de gens religieux. Il y en a quatre qui sont partis d'un coup. Là-bas, ils se trompent presque sur les doigts de demain. Il en est ainsi. Mais la réponse, la vraie, c'est que Hachem, il sanctifie son nom par ceux qui lui sont proches. Et c'est vrai que le départ, en particulier d'un enfant, je l'avais comparé en parlant. Je révise. C'est vrai qu'il y a donc un midrash qui dit que Hachem est comparable à un jardinier qui descend dans son jardin et il voit des mauvaises herbes. Alors il prend sa faux et il va les couper. Et à la dernière minute, au milieu du buisson de mauvaises herbes, il aperçoit une rose. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa faux, il se baisse et il cueille la rose. Et le mirage dit, il en est ainsi de Hachem, son jardin, c'est le monde. Il voit des mauvaises herbes, c'est-à-dire des véchaïm, il mériterait d'être coupé. Il ne le fait pas parce que c'est une rose qui est partie à la place. Un tzadik. Mais la différence, c'est que les mauvaises herbes, on les brûle, tandis que la rose, on la pose sur la table de la chaîne. C'est toute la différence.
Alors, est-ce que nous avons une dernière question, vu que...
L'heure avance.
L'heure avance, exactement. Est-ce que nous avons une dernière question? Ce sera deux dernières questions, la jeune fille et les garçons.
Bonsoir, Rav.
S'il vous plaît, laissez poser la question, mademoiselle.
Alors, vous avez parlé de Midot, et je voulais simplement savoir qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour travailler sur ces Midot, simplement.
Moi, j'ai donné un exemple, c'est respecter les autres. Et je pense que la mida la plus belle, la plus grande de toutes, c'est la modestie. Essayez de de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Maintenant, dans le domaine des mitzvot pratiques, je pense qu'il y a deux mitzvot, d'après ce que j'ai lu dans tous les textes, qui protègent beaucoup le peuple d'Israël. Chez les jeunes filles, c'est la tzniout, c'est-à-dire un vêtement et une attitude conforme à la tradition. Et chez les jeunes gens, c'est le respect des jeunes filles, de ne pas toucher une jeune fille. Voilà.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.